Il avait raccroché son impair il y a déjà quelques années. Cette fois, Colombo nous a quittés pour de bon. L'acteur du plus célèbre des flics de la télé, Peter Falk, est mort à l'âge de 83 ans. Hommage en début de ce journal. Les cantons en colère contre Berne, les procédures d'asile sont trop longues, ce qui pèse sur l'accueil des réfugiés. Les directeurs police et justice demandent une accélération des procédures. Un nouveau président pour la Banque Centrale Européenne, le Conseil Européen a nommé l'Italien Mario Draghi. Après quelques querelles en coulisses entre la France et l'Italie, nous dira Alain Franco. Demain, la journée sera bien ensoleillée sur l'ensemble des régions. Les températures se réchaufferont avec un maximum de 23 à 25 degrés en pleine. Dimanche, ce sera le grand retour de l'été. Prévision complète de Carole Dubuis à la fin de cette édition.
Oh, là, il faut que je rentre. J'oubliais que j'ai promis à ma femme qu'on sortirait. Veuillez m'excuser. Je vous remercie de votre accueil.
Mes hommages à madame.
J'espère que nous aurons un jour l'occasion de nous revoir.
On reverra sans doute encore Colombo à la télévision, mais plus l'acteur derrière l'impair froissé du célèbre détective américain. Peter Falk est mort à l'âge de 83 ans à son domicile de Beverly Hills, c'est ce qu'a annoncé sa famille ce soir. La célèbre série télé l'avait rendu populaire dans plus de 26 pays. Pour Martin Winkler, auteur du guide des séries télé, Peter Falk était véritablement un grand acteur et un grand comédien.
C'est Colombo, mais c'était pas un acteur de télévision, c'était un acteur de cinéma. C'est un des meilleurs amis de John Cassavetes. Il a joué dans beaucoup de films de John Cassavetes. C'était un acteur de théâtre, c'était un acteur de cinéma indépendant. Et d'ailleurs, quand on lui a proposé Colombo, il a accepté de le faire à condition de ne faire que 5 ou 6 films par an, parce qu'il voulait pas être pris dans une série où il y aurait 22 épisodes et qu'il aurait pris toute l'année. C'est un personnage parmi d'autres dans sa carrière. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a eu une carrière cinématographique très très importante. Il a joué pour Wim Wenders, il a joué pour des tas de gens. Et ça, c'est passé plutôt inaperçu par rapport au personnage de Colombo. C'est un acteur qui a toujours fait du cinéma et du théâtre en parallèle avec ses activités de télévision. Il a joué dans des tas de films. Peter Falk, pour moi, c'est quelqu'un qui a tourné au moins 2 films par an pendant toute sa carrière. Il a tourné énormément de films. C'était vraiment un acteur qui pouvait incarner des rôles très très différents et leur donner une épaisseur extrêmement grande.
Le spécialiste des séries télé, Martin Winkler, était interrogé par nos confrères de Radio France. Les cantons se plaignent des lenteurs de la Confédération dans les procédures d'asile. Les représentants de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police étaient réunis à ce sujet ce matin à Berne. Ils demandent au service de Simonetta Sommaruga, en charge du dossier, d'accélérer les procédures, notamment celles dites de Dublin qui concernent les réfugiés économiques. Les délais actuels pour leur renvoi se font au détriment des cantons qui doivent en assurer l'accueil. Écoutez Catherine Keller-Souter, c'est la présidente de la Conférence des directeurs cantonaux justice-police.
L'introduction d'une procédure Dublin dure trop longtemps. On pourrait gagner du temps si là, l'Office fédéral de migration pourrait accélérer la procédure, ce qui fait que si ces personnes doivent quitter le pays plus tôt, il y a aussi plus de place dans les centres de requérants d'asile, dans les cantons et puis dans les centres de la Confédération.
Est-ce que la situation sur le terrain est si catastrophique que cela? Les chiffres tendent à démontrer qu'on n'est pas dans une situation de crise.
C'est vrai que le nombre de requérants n'est pas alarmant, mais de l'autre côté, nous avons quand même dans les centres cantonaux, 55% de cas Dublin. Et c'est des cas qui ne devraient pas être répartis sur les cantons parce que ce sont des gens dont un autre État est responsable pour la procédure d'asile, notamment l'Italie. Et des gens comme ça, il faut vraiment accélérer la procédure, faire en même temps la procédure de non-entrée en matière.
Karine Keller-Souter répondait à Christian Favre. Et selon l'Office fédéral des migrations, plus de 38 000 personnes se trouvent aujourd'hui dans un processus d'asile en Suisse. En mai, sur les 2254 nouvelles demandes, 342 provenaient de la Tunisie, un chiffre en constante augmentation depuis le début de l'année et la chute du régime de Ben Ali. Mais ces demandes venant des pays arabes sont bien inférieures à celles connues durant la guerre de l'ex-Yougoslavie, selon l'ODM. Le président du Conseil de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, Peter Hufschmid, démissionne. Il était visé par une enquête du département fédéral de l'énergie sur son indépendance. Le DTEC a conclu que ses mandats extérieurs sont compatibles avec sa fonction, selon l'ordonnance de l'IFSN, mais pas aux yeux de la loi. Elle précise toutefois que rien n'est reproché à M. Hufschmid, qui affirme de son côté avoir démissionné pour ne pas porter atteinte à la crédibilité de l'inspection. Les actionnaires de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman, ont largement accepté ce matin le principe de transformation des structures de la société. Réunis en Assemblée Générale, ils ont dit oui à la poursuite des négociations pour la création d'une holding qui regroupera deux sociétés, l'une consacrée à la flotte Belle Époque, classée monument historique, et l'autre à l'exploitation. Les cantons de Vaud, de Genève et du Valais seront majoritaires dans cette nouvelle société. Pour Kurt Hösch, président du conseil d'administration de la CGN, il y a urgence à poursuivre la recapitalisation.
Le Grand Conseil vaudois a déjà voté une partie d'un crédit important global de 23 millions. 16 millions ont été votés par le canton le 5 avril. Et nous avons maintenant un urgent besoin de ratification par le canton de Genève et le Valais pour déclencher les travaux sur le bateau à roue à aube Vevey, diesel électrique, sur le ville de Genève et au chantier naval. Toute une partie de ce chantier est totalement vétuste et ne permet pas de travailler avec l'efficacité qu'on est en droit d'attendre d'une société efficace au XXIe siècle.
Des propos recueillis par Laurent Caspari. Les paysans suisses ne sont pas assez écologiques aux yeux de l'organisation Pro Natura. L'organisation de protection de la nature a présenté aujourd'hui sa position face au projet de politique agricole 2014-2017. Pour Pro Natura, de trop grandes quantités d'engrais sont répandues et le bilan énergétique est mauvais. L'organisation appelle l'Union suisse des paysans à miser sur la protection de la biodiversité. Presque 20 ans jour pour jour après la proclamation d'indépendance de la Croatie, le pays a reçu le feu vert de l'Union européenne pour son adhésion d'ici à l'été 2013. Bruxelles insiste pour que la Croatie poursuive cependant ses efforts de réforme, notamment en matière de justice. Et puis autre annonce lors de ce sommet à Bruxelles, la nomination du futur président de la Banque Centrale Européenne. Il s'agit comme attendu de l'Italien Mario Draghi. L'actuel gouverneur de la Banque d'Italie succédera au Français Jean-Claude Trichet fin octobre. Et c'est donc la fin d'un mini psychodrame franco-italien qui menaçait la transition à la franco.
A priori, c'était une formalité. Le gouverneur de la Banque d'Italie faisait l'unanimité sur son nom. Bien qu'originaire d'un pays du Club Med, comme disent les Allemands avec condescendance, il avait rallié le soutien d'Angela Merkel. Il faut dire que Draghi est un orthodoxe de la monnaie unique, attaché à la stabilité des prix et aux sanctions automatiques contre les pays qui dérapent, rien que du bon pour Berlin. Draghi faisant l'unanimité, sa nomination était attendue hier soir. Sauf que la France a fait valoir une règle non écrite, selon laquelle le directoire de la BCE comprend un représentant de chacun des quatre grands pays de la zone euro, et pas deux. Or, un autre Italien y siégeait. Il devait laisser son poste à un Français, condition sine qua non, avait ordonné Nicolas Sarkozy. Quelques apartés avec Berlusconi et Herman Van Rompuy plus tard, Lorenzo Binismaghi, l'Italien en trop, a appelé le président français pour l'assurer qu'il quittera la BCE. La voie était libre. Draghi prendra les commandes de la Banque Centrale le 1er novembre, en espérant que la crise de la zone euro ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alain Franco, Radio Suisse Romande, Bruxelles.
En Syrie, comme tous les vendredis depuis 3 mois, des milliers de personnes ont défilé dans les rues du pays après la prière. Des manifestations de nouveau violemment réprimées par le régime. Selon un dernier bilan d'une ONG syrienne, au moins 12 personnes ont été tuées par des tirs des forces de sécurité, dont 3 dans un quartier de la capitale, Damas. L'Union européenne a mis en cause la légitimité du président alors qu'une nouvelle série de sanctions économiques contre des responsables du régime est entrée en vigueur aujourd'hui. Deux membres du Hezbollah libanais ont collaboré avec la CIA. C'est ce qu'affirme en tout cas Hassan Nasrallah, le chef du mouvement classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Selon le Hezbollah, les deux recrues de l'agence de renseignement ont avoué avoir infiltré l'ambassade américaine au Liban. Des accusations creuses et sans fondement, a répondu ce soir un porte-parole de cette ambassade. L'intervention en Libye au cœur de 2 votes au Parlement américain, 2 votes et 2 résultats contradictoires. Dans le premier, la Chambre des représentants, dominée par les Républicains, a rejeté un texte autorisant l'intervention militaire dans le pays, ce qui représente un sérieux revers pour Barack Obama. Mais dans un second vote, elle a rejeté une résolution qui aurait privé de financement les bombardements menés contre le régime de Kadhafi. Des nouvelles structures d'accueil de la tête de moine ont été inaugurées aujourd'hui à Belley dans le Jura. Une campagne de communication de 250 000 francs sur 3 ans doit permettre d'attirer près de 100 000 visiteurs par an contre 20 000 aujourd'hui sur les sites de Seignelégier, de Saint-Imier et de Belley. Les fromagers ont revendiqué aussi un soutien sous forme de crédit supplémentaire pour faire face aux franchères. La tête de moine qui célèbre aussi ses 10 ans d'obtention de son AOC. C'est une chance selon Jacques Chava, il est directeur suppléant de l'Office fédéral de l'agriculture.
Ça, c'est un grand atout parce que, évidemment, un produit à succès suscite immédiatement aussi le risque des imitations, des usurpations. Et avec l'accord que nous avons conclu avec l'Union européenne, on aura exactement le même niveau de protection maintenant sur l'ensemble du territoire européen pour l'ensemble des AOC et des IGP suisses. À elle seule, elle ne peut pas faire le succès commercial. Il y a la qualité du produit, il y a les efforts de promotion, évidemment, qui doivent continuer. Mais c'est au moins une sécurité qu'il n'y ait pas une industrie quelconque qui se mette à faire un fromage du même forme, avec les mêmes caractéristiques, et donc qui vole impunément la réputation que toute la filière a bâtie.
Jacques Chava répondait à Gaël Klein. En tennis, les matchs de la cinquième journée de Wimbledon ont été définitivement interrompus en fin d'après-midi à cause de la pluie. Le match entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Luxembourgeois Gilles Muller reprendra donc demain. Nadal avait remporté de justesse le premier set 7-6. Le vainqueur de Roland-Garros retrouvera aussi pour le troisième tour demain Roger Federer. La bourse suisse a clôturé dans le vert la semaine. Le SMI a progressé de 0,12% à 5 998 points. La bourse de New York a fini en nette baisse. Le Dow Jones a perdu 0,9% et le Nasdaq 1,26%. Et on prend des nouvelles du ciel avec Carole Dubuis.
L'anticyclone des Açores s'établira au-dessus du continent et maintiendra le beau temps sur nos régions jusqu'à mercredi prochain, annonce Météo Suisse. Le temps sera globalement bien ensoleillé demain, même si les nuages d'altitude pourraient envahir le ciel par moments et réduire l'ensoleillement, surtout au nord et à l'est du pays. Le mercure affichera un maximum de 23 à 25 degrés en pleine. L'isotherme du 0 degré prendra de l'altitude et s'établira à 3800 mètres. En montagne, un vent faible à modéré de nord-ouest se lèvera. La journée de dimanche sera belle. Elle accueillera l'été dans toute sa splendeur. Les températures grimperont jusqu'à 30 degrés en pleine. Elles annonceront un début de semaine caniculaire, 30 à 32 degrés pour lundi, 31 à 34 prévus pour mardi. Une perturbation passera sur la Suisse romande mercredi.